Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voir un peu plus que 21h ce soir. Allez, on va dire quelques minutes de rap, 21h10, parce qu'ils sont sympas, ils sont en forme. Ils vont partir en week-end, donc on peut les, voilà, les solliciter encore un peu plus. Tiens, Étienne Braque nous a rejoint sur le plateau de Tech & Co. Salut Étienne.
Bonsoir François.
Journaliste à BFM Business. Étienne, tu es venu ce soir nous commenter les résultats d'Amazon, qui sont plutôt bons, avec le cloud et l'IA qui cartonnent.
Oui, et puis aussi l'activité e-commerce. Alors c'est simple, vous avez une marge opérationnelle à deux chiffres, c'est historique, hein, 10,7%. Autant dire que par rapport au chiffre d'affaires, Amazon n'a jamais été aussi rentable, avec un alignement des planètes, hein, c'est-à-dire qu'ils ont réduit les coûts d'une façon drastique ces derniers mois. Oui. Alors ça faisait là une
plusieurs
de la presse.
Dizaines de milliers de licenciements. Voilà.
Hein. Alors après, c'est 1,5 million de salariés Amazon, c'est tout simplement dingue. Hein. Donc en fait, 27 000, ça peut paraître beaucoup, mais par rapport à 1,5 million, c'est pas beaucoup. Mais en tout cas, il y a vraiment, comme chez tous les groupes de la tech, un travail sur les coûts, frais généraux administratifs, moins 10% au premier trimestre. Ajouté à cela, AWS, donc c'est Amazon Web Service, le cloud qui cartonne, hein, puisque vous avez un chiffre d'affaires en hausse de 17%, 25 milliards de dollars, 37% de marge opérationnelle contre 30% ces derniers mois, avec bien sûr l'IA, puissance de calcul, puissance de stockage qui est demandée par les clients avec des hausses de prix, et ça tient. Et donc le e-commerce qui tient très bien. Alors historiquement, c'est une activité qui est très dépendante à l'Amérique du Nord. Hein. De toute façon, dans le résultat, c'est simple, il y a l'Amérique du Nord et le reste. Hein. Ils ne détaillent pas l'Europe, etc. C'est vraiment le reste du monde. Et donc là, on le voit tous les jours, l'activité aux États-Unis, elle est très robuste en termes de croissance, dépenses des consommateurs, etc. Et puis, dans le même temps, eh bien, l'activité donc autre aux États-Unis, eh bien, elle est rentable pour la première fois depuis 2021 et les confinements. À l'époque, forcément, ça avait explosé parce qu'il n'y avait pas le choix, c'était le e-commerce ou rien. Et donc, depuis, l'activité était en perte et là, elle se reprend grâce notamment à des ventes robustes, à un programme sur les réductions de coûts et puis aussi la publicité, plus 24% pour la pub à quasiment 12 milliards. Ça représente 8% des ventes. Alors, la publicité chez Amazon, c'est quoi? C'est, je suis commerçant, mon produit va être mis en avant. Et puis, ça passe aussi par Prime. Parce que là aussi, comme Netflix, vous avez de la publicité dans l'offre de streaming. Et donc, par rapport à cela, ça devient très rentable. Donc, vous mettez tout ça bout à bout, vous arrivez à 10 milliards de profits, comme au quatrième trimestre. Alors, contrairement à Meta et Alphabet, ils n'ont pas annoncé de dividendes. Et élément notable, on le verra ce soir avec Apple s'ils font mieux. Mais pour l'instant, parmi les grands GAFAM, eh bien, c'est le groupe qui investit le plus en termes de CAPEX, de capacité d'investissement, avec 15 milliards qui ont été mis sur la table au premier trimestre, avec notamment l'IA, hein, et puis des dépenses spectaculaires, avec notamment hier, c'est passé inaperçu, mais Anthropix, hein, qui a lancé son application sur iPhone.
Merci beaucoup Étienne, et derrière toi on voit les gigantesques en fait, centres de distribution qu'on a eu la chance de visiter avec Léa Benaïm, la productrice de cette émission à Seattle, c'était en fin d'année dernière. Et c'est incroyable de voir toute cette robotique qui est orchestrée au millimètre près pour justement essayer de grappiller quelques minutes sur la durée du temps de livraison. Quoi. C'est carrément incroyable. Merci beaucoup Étienne. Étienne Braque, Clément, je sais que tu voulais commenter tous ces chiffres.
Ça fait beaucoup de chiffres.
Oui.
Déjà, chiffres intéressants, sur les 15 milliards d'investissements dont parle Étienne, 14 milliards sur l'IA. Déjà, ça te positionne un peu le truc.
D'accord. Le reste, c'est personnel, ça me fait plaisir.
Le reste, c'est les dépenses Uber des dirigeants, ce genre de truc. Non, il y a plein de trucs à dire. Le premier, c'est Amazon Web Services, donc AWS, c'est deux tiers des bénéfices de Amazon. Donc tu vois, quand on avait cette discussion de est-ce que Netflix doit rejoindre les GAFAM, etc., bah, développer une seconde activité qui va faire les deux tiers de bénéfices de votre première activité, et puis ensuite on discutera de est-ce que vous êtes parmi les grands de ce monde ou pas, tu vois. C'est quand même impressionnant, je veux dire, le fait d'être la plateforme la plus dominante du monde dans l'e-commerce et après de dire bon, finalement ce sera de l'argent de poche, incroyable. Ensuite,
c'est-à-dire que la marge opérationnelle, elle est très faible en fait sur le commerce d'une manière générale. Ouais. Alors que j'imagine que sur le cloud tu peux avoir des marges qui sont plus importantes.
Oui, puis t'as un marché B2B qui est colossal. Ton marché, c'est juste 100% des boîtes de la terre. Donc c'est incroyable. Après, il y a un truc à relativiser quand même, qui est ça fait une croissance de 17%. Pour Amazon, c'est très bien, je pense qu'il y a plein de boîtes qui adoreraient. En revanche, Microsoft, qui sont numéro 2, mais juste derrière, ils doivent être à 31%, et Google à 25% ou pas loin, tu vois. Donc, il y a
Ils partent de plus bas aussi.
Ils partent de plus bas, mais n'empêche qu'il y a quand même Microsoft, pas tant. Il y a quand même un truc qui est, aujourd'hui, il y a Amazon qui sont très forts, mais il y a aussi le cloud, ça rapporte. Tu vois.
C'est bankable en ce moment.
En fait, c'est bankable parce que c'est ce qu'a dit Étienne. Il y a deux trucs. Un, les gens, pour faire tourner leurs plateformes IA, etc., ont besoin de puissance de calcul, ont besoin de plus de capacité de calcul, donc plus de serveurs, donc les factures de ce qu'ils consomment chez Amazon augmentent. Puis il y a un deuxième élément qui est, c'est l'occasion de leur vendre plus de produits. Tu vois, de rajouter par-dessus les abonnements que les gens avaient déjà, les services, des nouveaux services qui coûtent plus cher, qui, etc. Ensuite, la vraie question, c'est que l'IA, on est un peu sur une bulle. Tu vois, ça commence à sortir. Tu vois, il y a un mec de McKinsey France qui a parlé dans Les Échos aujourd'hui. Je veux dire, il y a quand même beaucoup d'investissements. Autant Amazon, ils vont les rentabiliser. Et tu vois, tu as le directeur financier qui dit, on va investir encore plus que les 14 milliards, mais on croit à des retours sur investissement très rapides. Bon, parce qu'en fait, eux, ils vendent le moyen. Ils vendent la, comment dire, l'outil qui permet aux clients de faire de l'IA. La vraie question, c'est est-ce que les clients qui achètent cet outil pour faire de l'IA, eux, dans la vraie vie, ça va leur rapporter de l'argent concrètement, parce que sinon la bulle, elle va se dégonfler très vite.
Lucas.
Oula, bon, alors.
De temps en temps, je te voyais faire. Comme ça, là.
Allez, on est parti.
Ah, d'accord, quoi, le gars.
Alors, c'est une activité annexe, oui et non. Le cloud, historiquement, c'est né du fait.
Fightez-vous un peu tous les deux, là.
Ah oui, non, mais annexe.
Toujours hyper en fait, poli
sans,
entre
sans
vous.
Sans Intel, il n'y a pas le cloud. Sans Intel, il n'y a pas le cloud. Le cloud, il est né du fait qu'on avait beaucoup d'utilisation de server and storage à Black Friday en fin d'année.
Mais
et que
qui décide d'en
de
faire un grand business après, ouais. C'est quand même un coup. Dire on en a besoin, nous, et dire on va en faire une deuxième activité, c'est extraordinaire.
Oui, non, mais ça, c'est ça, non, oui, on est tout à fait d'accord. C'est que pendant les périodes creuses, en gros, il y a beaucoup de capacité, ils sont mis à louer la capacité. En fait, le coût incrémental du client, il est zéro parce qu'ils ont déjà l'infrastructure. Mmh. Et cette infrastructure, elle est quand même le savoir-faire de l'infrastructure, elle est beaucoup amortie sur les activités.
Tu veux dire que s'ils sont bons dans le cloud, c'est parce qu'ils ont été très bons dans le retail.
Bah, historiquement.
S'ils n'avaient pas été bons dans le retail, ils ne seraient pas aussi bons dans le cloud, c'est ça?
Leur infrastructure, elle est née de leur taille gigantesque et de leurs investissements gigantesques dans le retail.
Ouais, ouais.
Et donc, ils ont commencé à la louer parce qu'ils, finalement, ils le faisaient mieux que tout le monde. Et ensuite, effectivement, il y a eu de la diversification, etc. Il n'y a aucun acteur cloud majeur qui n'ait pas d'autres activités et dont le cloud ne soit pas un dérivé de leur infrastructure native. Ouais. Azure,
pareil.
C'est l'infrastructure de Microsoft qui fait tourner Microsoft qui a été étendue.
Après, tu as plein qui n'ont pas pris ce virage. C'est ça qui est fou. C'est que tu vois, Apple aurait pu le faire, Facebook aurait pu le faire. Moi, je trouve ça quand même fabuleux l'histoire qu'il y a derrière de dire on va le louer à d'autres mecs. Ah, bah, on va tellement investir qu'on va en faire.
Alors,
ouais. Mondial.
Mais tu vois, Apple, c'est la seule boîte qui n'est pas vraiment B2B finalement par rapport
c'est
aux autres.
C'est une boîte de hardware.
Amazon B2B, Google B2B, enfin en tout cas une branche B2B importante, Microsoft B2B aussi, Apple.
Google est devenu B2B, hein, parce que c'est vraiment.
Oui, Google est devenu B2B.
C'est la transformation. Ouais, ouais. Meta essaie de le faire encore aujourd'hui, notamment en VR, etc. Bon, c'est balbutiant, ils sont en train d'apprendre.
Oui, ça balbutie beaucoup.
WhatsApp for Business, par exemple, en messaging avec l'IA, il y a quand même des gros potentiels. Donc, bon. Donc la rentabilité, il faut faire attention parce qu'elle s'amortit en fait cette infrastructure. Elle est leveragée en fait. C'est comme un LBO, c'est-à-dire que j'ai déjà l'infrastructure, je la fais croître, j'ai déjà le savoir-faire, donc il y a peu de coûts et beaucoup de revenus, ce qui fait que c'est extrêmement intéressant. Après, Amazon face à Google, face à Azure, je crois que le plus gros problème qu'on a, c'est qu'il est devenu impossible de gagner contre ces gens-là maintenant.
Bien sûr.
Parce qu'on est sur des marchés où le niveau d'investissement. Il y a un truc qui m'intéresse, c'est 14
milliards.
C'est
le niveau d'excellence, en fait, de ces trois-là.
Non, mais surtout l'argent.
Et puis c'est l'argent. C'est oui, mais c'est parce qu'ils investissent autant qu'ils sont excellents.
En fait, ils sont déjà très, très, très loin.
Bien sûr.
Et tu peux même aujourd'hui, par l'opération du Saint-Esprit, on prenait un acteur français, OVH ou Scaleway, et qu'on les mettait là où ils sont, en deux semaines, ils seraient dépassés.
L'autre point.
Parce qu'ils ne peuvent pas réinvestir.
Ouais. La capacité n'est pas là. L'autre point, juste pour terminer sur la profitabilité, ce qui fait. La profitabilité du cloud aujourd'hui, c'est la migration des serveurs et des capacités de stockage des entreprises vers le cloud. Ça, c'est le cœur du business. L'IA, Bedrock, etc., c'est intéressant. Effectivement, ça fait de la consommation, mais ce n'est pas encore le gros de la consommation, parce qu'on est toujours en retard, en fait. On a le concept qu'il faut passer au cloud, et on a encore 70% des boîtes qui ne sont pas dans le cloud, ou qui ne sont partiellement pas dans le cloud. Nous, on a des gens qui sont des très grosses boîtes avec qui on travaille, qui sont des boîtes globalisées, des grands groupes, ils ont des AS400 hein, encore en base installée. Donc, il y a encore devant eux un boulevard de migration, et l'IA, c'est le storytelling par-dessus. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que l'IA, c'est une bulle, oui et non. Nous, aujourd'hui, on voit des gains de productivité pour des emplois cadres 20, 30, 40% quand c'est bien fait. Alors, la question, c'est est-ce que ça va se faire dans le cloud? Est-ce que ça va se faire en local? Parce que nous, pour parler un peu techniquement, on voit des choses, on fait du RAG. On arrive à mettre, donc on discutait tout à l'heure, nous, on a acheté de la RAM à tous nos collaborateurs parce qu'on a mis des LLM sur leur PC et ils tournent sur leur PC, on les benchmark avec OpenAI dans le cloud. Et en fait, un Llama 3, avec quelques techniques d'appel à réappel en mode agent, en RAG, hein, pour parler techniquement, je suis désolé. Mm-hmm. Finalement, c'est aussi fiable et ça tourne entièrement sur, avec votre puce et votre ordinateur. Donc, c'est plus ça la question. Mm-hmm. Mais la question de la productivité générée par l'IA générative, moi, je ne me pose pas la question. On a des cas très concrets aujourd'hui de productivité.
Après, je pense...
Pas après Clément.
Mais Clément pourra mieux en parler que moi. Mais je pense que où Amazon a pris beaucoup d'avance aussi, c'est que ça a été les premiers à sortir l'Elastic Cloud, là, pouvoir louer ses serveurs virtuels. Ça a été les premiers à faire aussi toute la partie base de données. Ça a été les premiers à s'adresser aux développeurs, mais vraiment avec des offres très structurées. C'était les premiers à offrir qu'est-ce qu'il y avait, le stockage, le CloudFront aussi pour toute la gestion de contenu. Donc, ils ont offert tout un tas de services au-dessus du cloud. Là où les autres ont eu un peu de retard au démarrage, ils ont rattrapé après derrière. Mais ça, c'était quelque chose. Et les entreprises, moi, je vois les entreprises parfois. Amazon avait cette véritable avance et ils ont commencé à développer leurs propres applications pour leur chaîne logistique et tout ça. Et aujourd'hui, c'est un peu compliqué de revenir en arrière. Alors, on voit un léger affaissement. Hein, 34%, ça passe à 31. Hybride, ouais. Je pense que ce qui va être intéressant, c'est de voir le côté OpenAI, tout ce qui est IA. Là dans les deux prochains trimestres, voir si Microsoft est en train de reprendre un peu parce que
c'est des mouvements, les mouvements en entreprise.
Ouais, mais tu vois, 2% quand même. B2B, ouais.
Migration, tu connais ça mieux que moi. Migration, serveur and storage.
Oui, mais les petits signaux, tu vois, c'est quand même passé de 34 à 31. Tu vois,
ouais, mais ils ralentissent un peu. Après, ils ont de beaux jours devant eux. Mais aujourd'hui, la facture cloud d'une entreprise, t'as le stockage, mais en fait, ce qui coûte le plus cher, c'est les services qu'ils te mettent par-dessus.
Oui, c'est ça.
Parce qu'en fait, on te dit, on va gérer ta base de données. En fait, tu vas pas la gérer toi-même, tu vas pas prendre deux mecs. Et c'est vrai, on va nous te mettre une surcouche logicielle qui fait que. Et en fait, tu vois, par exemple, une techno qu'on utilise chez Paddock beaucoup qui s'appelle Kubernetes, en fait, soit tu prends un mec full-time pour le gérer dans ta boîte, soit en fait, tu payes plus cher, mais en revanche, c'est géré les mises à jour automatiquement par Google, par Amazon. Et en fait, c'est cette surcouche de service qui fait qu'ils sont devenus et incontournables et en plus très très rentables. Après, sur la partie IA, quand je dis bulle, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de use case. Ce que je veux dire, c'est la partie survalorisation. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu sur le marché, c'est deux trucs. D'une, le marché est morose. C'est-à-dire que ça fait deux ans que dans la tech, tout le monde fait la gueule parce qu'on a vécu des jours incroyables, on était sur une croissance de fou, et que tout à coup, là, on attend un peu que ça se passe parce qu'il n'y a plus d'argent, tu vois, les robinets sont coupés. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a eu cette innovation incroyable que les gens ont capté très très vite. Et où les comex, avant, c'était les techs qui poussaient les trucs en disant faudrait faire de l'IA, et les comex disaient oh bah ouais, mais l'IA, bon, c'est quoi exactement? Là, c'est les comex qui sont venus en disant sortez-nous des projets des cartons. Parce que tout le monde parle d'IA, nous, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, il y a des cas très concrets, mais en revanche, tu vois, on gagne en productivité, etc. Mais il y a une survalorisation aujourd'hui où, dès qu'il y a un projet IA, on est capable d'aller très vite dessus, d'investir beaucoup dans des boîtes ou de payer très cher Amazon ou Google pour qu'ils nous fassent des trucs, alors que il y a beaucoup d'entreprises qui sont pas suffisamment matures pour être sûr que ça va leur faire gagner de l'argent.
Oui, mais je crois qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui est en train de changer. Moi, pour parler avec beaucoup d'entreprises, il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est que le ROI, même s'il est à court terme, même s'il est garanti sur 3 mois, 4 mois, ils vont y aller. Ils regardent pas
Internet,
le ROI à
Internet, il y a une bulle alors qu'il y avait un use case, tu vois. C'est-à-dire qu'Internet ça a explosé alors que ça allait servir à quelque chose, tu vois.
Ça c'est vrai. Enfin, nous on fait beaucoup de moi je fais beaucoup de comex, français étrangers, principalement étrangers. Où ils me disent venez nous parler d'AI. Et c'est vrai que la pire chose qui puisse leur arriver, c'est ce que je leur dis toujours, c'est qu'ils fassent des pilotes. À un moment, ils ont, excusez mon français, tout le bordel ambiant informatique à gérer. Ils rajoutent des pilotes qui ne sont pas designés pour être intégrés à la suite. Et ensuite, ils ont leur bordel plus les pilotes. Et ça, juste pour aller dire aux investisseurs,
Vous avez vu, on l'a dit.
Donc ça, clair. On travaille beaucoup avec eux là-dessus aussi. Ouais.
Très bien. Voilà pour le résultat d'Amazon. C'était important, intéressant aussi d'avoir votre analyse. Non, mais c'est pas ça. C'est que le temps passe tellement vite.
C'est la passion.
Même si on va gratter jusqu'à 21h10, on a pas mal de sujets. J'aimerais qu'on évoque notamment celui qu'avait choisi pour nous Lucas. C'était la stratégie un peu de Meta concernant l'IA générative et le métavers. On parlait des investissements colossaux chez Amazon, mais Meta pareil.
Plus même. C'est pour ça que
plus encore. Parce que c'est ce qu'on peut reprocher peut-être, en tout cas c'est ce que les investisseurs reprochent à Mark Zuckerberg, c'est que dès qu'il a un peu de cash, il le brûle en fait en investissement, c'est ça?
Ouais, parce que Mark, il investit dans ses passions. Alors on apprend dans les écoles de finance à Stanford, on nous apprend qu'il faut faire quand on gère une entreprise, il faut créer de la long-term shareholder value, il faut créer de la valeur long terme pour les actionnaires. Sauf que la gouvernance de cette boîte et des boîtes issues de la bulle tech, c'est que les fondateurs ont la majorité des droits. Alors, je crois que Marc, il doit posséder un peu plus de 10% alors pécuniairement de Facebook, de 13, un truc comme ça en ce moment. Simplement, il a 51% des droits de vote. Donc, le conseil d'administration, ils sont bien gentils.
Mais c'est lui qui décide. Voilà.
Et Wall Street, ça marche pas comme ça d'habitude. On a des fonds de pension ou des BlackRock, des Vanguard, etc., qui représentent à peu près une quarantaine de pourcents de toute la capitalisation boursière mondiale, et qui viennent s'asseoir au conseil d'administration, qui disent bon, maintenant t'as fait de la croissance, comment tu fais du profit, et on fait des cycles croissance profit croissance profit. Sauf que Marc, à chaque fois qu'il sort plus de profit, il a plus de rêves et il a plus de choses dans lesquelles il veut investir, et c'est lui qui décide. Donc, et je voulais qu'on en parle parce que Facebook a annoncé ses résultats, donc 30% de croissance du chiffre d'affaires, en gros, 27.
Les chiffres sont excellents, ouais.
86% de croissance de la marge. Sur un trimestre, il gagne 12,5 milliards de cash.
Contre 5 milliards le trimestre avant.
Ouais, alors bon, après, il y avait des ajustements, mais effectivement.
Ouais. Il y a eu des coupes, hein, 22 000 suppressions d'emplois et tout ça. Ouais,
mais c'est pas ça qui fait gagner. C'est que
ça
ils avaient.
Ça fait gagner un peu quand même.
Non, enfin, c'est pas comme ça que tu gagnes 6 milliards ou 7 milliards.
Oui, oui,
les 6 milliards, 7 milliards, ils viennent de la publicité parce qu'ils font des trucs serveur to serveur, ils avaient perdu les cookies, ils ont trouvé la solution pour.
Donc ils ont trouvé en fait le palliatif à tout ce que avait mis Apple comme sécurité en fait de vie privée pour que justement les publicités d'Apple soient moins pistées.
Il y a une combinaison de choses, c'est que d'abord il y a plus d'investissements marketing toujours qui arrivent parce qu'ils sont pas arrivés à maturité par rapport à Search, par rapport à Google ou par rapport aux médias traditionnels. Il y a encore un phénomène de rattrapage des parts de dépenses, et en plus avec un truc qui s'appelle CAPI, Conversion API, ils ont réussi à renourrir leur algorithme pour qu'ils redeviennent plus précis. Et donc la qualité de la personnalisation est redevenue meilleure. Mais ce qui est intéressant, encore
donc
une fois,
tout cet argent qu'il gagne,
voilà. Donc il vient, il fait son call, il dit voilà, on a fait 27% de croissance du chiffre d'affaires, 86% de croissance de la marge, et on va investir dans le bêta, on va investir dans l'AI. Ça va coûter cher, ça va prendre longtemps, la GenAI, etc. Mais il y a des chemins de monétisation parce que on pourra faire de la pub dans l'AI, on pourra faire payer des abonnements s'ils veulent s'en servir plus, etc. Et on va investir dans le métavers. Et l'action tombe de 17% dans la semaine. Et c'est très difficile à comprendre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, à un moment, les investisseurs institutionnels qui mettent leur argent, mais qui n'ont pas le droit de voter, on leur a fait le coup il y a 10 ans, il y a 20 ans. Enfin, c'est-à-dire, quand Facebook a commencé, il a dit, bon, ben, on va investir sur Stories, sur Reels, etc., quand Snapchat a émergé. On va mettre beaucoup d'argent, mais l'argent reviendra, l'argent est revenu. Sauf qu'au lieu de leur rendre l'argent, il dit, je vous donne un peu de dividendes et je remets,
Je remets dans le métavers ou dans l'IA.
Il a mis 4 milliards dans le métavers.
Il n'avait pas contredit les analystes aussi à l'époque où il avait dit, je vais réduire mes coûts et tout ça. Hein. Il avait quand même dit, dans les prévisions, c'était ça.
Mais après,
c'est ce qu'il avait dit au départ.
Avoir vécu la vraie corporate américaine, avoir vécu chez Facebook, leur version de réduction des coûts, il y a quand même beaucoup de stories dedans. C'est vrai qu'ils l'ont fait.
Oui, mais c'est ce qu'il y a. Quand tu lis les rapports des analystes, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils disent, il nous a quand même dit qu'il allait réduire ses coûts, et puis là, on voit qu'il remet encore au pot. Donc là, il y a un côté déceptif. Enfin,
il décide tout seul. Ouais. Il décide tout seul, et en fait, ils se disent, mais quand est-ce que cette fuite en avant va partir ? Et est-ce que le métavers, ça vaut 12 milliards par an ? Est-ce que les AI, ça vaut 7 milliards par an ?
Mais ils s'en fout, en fait.
Et lui, il s'en fout parce qu'il décide. Lui, ce qu'il veut, c'est changer le monde.
Oui, c'est ça.
Parce que financièrement, il n'a pas de soucis. Et c'est lui qui décide. Moi, j'ai fait des revues. Zouk, il décide de. Quand c'est un sujet qui l'intéresse, sur VR, on faisait des revues, c'est lui qui décidait. C'est lui qui. Quand on a lancé Portal, on a dû faire une revue parce qu'on voulait lancer 5 produits, pas 4 produits. Est-ce qu'il était d'accord ? Est-ce qu'il allait nous donner des dizaines de millions ? Qu'on lui demandait pour ajouter 2 produits sur les étalages des retailers. Et il décide lui-même, parce que c'est sa passion.
Portal qui a été un bide incroyable quand même, hein, ce truc-là. Hein.
Ouais, mais il voulait essayer Remote Presence, etc. Il est prêt, et lui, sur ces sujets-là, c'est lui qui décide. C'est personne d'autre. Enfin, il écoute les gens qui sont boss, il décidait beaucoup. Andrew Bosworth, qui est maintenant CTO, qui avant était dans ma chaîne hiérarchique à moi. Mais c'est lui qui décide, et c'est un peu ce côté fascinant, où il a tellement de pouvoir, il a 3 milliards d'utilisateurs par jour. Mais il y a une seule personne qui décide sur les choses importantes, et c'est Marc.
C'est bon.
Ouais, il y a un truc. On a quand même fait une émission, et on était ensemble d'ailleurs sur le plateau il y a quelques mois. On disait, OK, la mauvaise passe de Facebook, enfin de Meta, tu vois. Est-ce qu'ils vont exploser en vol? Marc dans la tourmente, il est ridicule devant les sénateurs. Ils perdent des parts de marché en permanence chez les jeunes, ils se font manger par TikTok. Et Facebook, il n'y a plus personne qui y va, ils n'arrivent pas à renouveler l'audience en Europe et aux États-Unis. Exactement. Donc, on a quand même, dire quelques mois plus tard, manifestement, le navire, il est toujours bien dirigé.
Il ne faut pas s'emballer, hein. Ça, c'est des mouvements séculaires qui sont encore en
c'est
route.
Des mouvements, et ce que je veux dire, c'est que ils sont pas en train de s'écrouler. Bon.
Non.
Le deuxième truc, c'est... donc ça, il faut quand même le dire. Le deuxième truc, c'est que moi, j'attends impatiemment que, vu que sa passion, c'est le MMA... À un moment, en fait, il pète un plomb et il lance une ligue de MMA ou un truc comme ça. Mais sinon, en fait.
Là, il s'est cassé le genou, là.
Il peut plus. Ça, il peut plus. Il s'est blessé.
Il a fait les croisés.
Ah, le pauvre. Non, le truc qui est intéressant, c'est. En effet, il aura fait le coup l'année dernière et les années d'avant. Il a passé deux ans avant de le métaverse contre vents et marées. Maintenant, c'est autre chose. Bon, moi, ce qui me rassure un peu dans la stratégie, c'est que quand ça avait été le métaverse, on se disait sur le plateau, oui, mais c'est quoi l'étape entre le métaverse dans 15 ans et là, maintenant, ton activité sur Facebook? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chemin intermédiaire où, entre-temps, tu avais gagné de l'argent. Là, sur l'IA, le chemin est un peu plus long, à mon avis, pour eux que pour Amazon ou Google, parce qu'eux, ils ont juste à vendre des outils à leurs clients. Mais au moins, les voies de modélisation, il n'y a pas tout un écosystème à inventer. C'est déjà améliorer ce qu'ils font, augmenter les revenus. Donc, je pense que sur un marché où tu ne peux pas aller, ça n'a pas énormément d'argent, ça fait forcément peur aux investisseurs. Mais au moins, on voit mieux ce qu'il essaye de faire que quand il nous vendait le métaverse.
Il n'a pas du tout abandonné le métaverse. C'est sa top priorité.
Non, il a
dit même, hein. Oui. Marc, c'est toujours sa priorité.
Moi, il n'a pas abandonné le métaverse.
Mais il investit combien par an dans le métaverse?
Là, ils ont déclaré une perte de. 3,8 juste sur le quarter. Oui. Donc, il faut à peu près 16 milliards par an, 15-16 milliards par an.
Non. Mais en fait, c'est ce côté, justement, au moins, il y a une étape intermédiaire. Au moins, d'ici à ce que le métaverse prenne l'essor que lui imagine, etc., etc., au moins, il y a un chemin, certes, qui va coûter de l'argent, mais où il dit, on a des tendances plus mature, entre guillemets, technologique sur lesquels on peut surfer pour assurer l'avenir de Meta.
Oui, c'est
quand même plutôt rassurant.
Mais pour l'instant, la vache à lait, c'est Facebook, c'est Instagram, etc.
C'est le risque, c'est que le modèle, c'est uniquement la pub. Par rapport à Google, Microsoft, etc., c'est moins diversifié.
Moi, c'est le seul risque que je verrais aujourd'hui, au-delà, bon, voilà, il investit dans la tech, et tant mieux, parce qu'en plus, ça nous fait des histoires à raconter, mais c'est tout ce que, bon, il y a eu Cambridge Analytica, qui avait quand même été un gros coup. Et moi, c'est toujours un peu ce qui me fait peur, c'est cette partie traitement des data, confidentialité, tout ça. S'il lui retombe des affaires comme ça,
c'est très monoreux
assez régulièrement. Et on a vu dans le. Alors, je pense qu'il a un peu mûri depuis, mais on a vu quand il avait témoigné devant les sénateurs qu'il était quand même. Enfin, parfois, il paraissait halluciné, dire je comprends pas où est le problème. Enfin, tu vois, il avait pas
quand même. Il est quand même à la limite du spectre autistique, de toute façon.
Je ne suis pas diagnostique, mais. Quand je le vois parler, je suis pas. Enfin. Alors je sais que c'est surprenant pour moi, mais moi je suis pas du tout surpris de ce qu'il raconte et pourquoi il le raconte, comment il répond. Je vois, enfin.
Oui, mais dans son esprit, mais justement,
dans une forme de logique,
le traitement des données, la confidentialité, tout ça, on sent que c'est pas trop son truc. Et après, métavers, je suis d'accord avec toi, il va continuer à investir, il y croit et tout ça, et on y viendra parce que de toute façon, quand tu discutes avec plein d'entreprises, elles avancent.
Regardez le nombre d'offres d'emploi liées à l'ARVR Facebook en route maintenant. Il y a que ça.
Mais il y a quand même cette histoire de traitement des données où...
Pour l'adoption par les entreprises, je pense qu'on a un peu de temps encore.
Ouais. Ouais, mais...
Paradoxalement, c'est le cas d'usage le plus viable. Apprentissage, développement...
Oui, la formation. Ouais. Oui, mais je veux dire, le métaverse, déjà, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose, les jeux vidéo, mais à part ça. Et puis, ensuite, le deuxième truc, les entreprises, d'ici à ce qu'elles se mettent au métaverse...
Blockchain et tout ça, aujourd'hui.
Oui, blockchain, pareil, les cas d'usage. Enfin, bon, bref, on va pas repartir là-dessus.
Tiens, ben justement, puisqu'on parle de VR, le Vision Pro... Enfin, Lucas Perraudin l'a testé. Parce que c'est vrai que la dernière fois, on était un peu déçus quand même.
Moi, j'écoutais ça en podcast, je me disais, mais c'est pas possible. Il commente, il ne l'a pas testé.
Il commente en disant, c'est pas terrible, enfin, c'est comme tous ces appareils et tout, mais il n'avait pas testé. Donc là, il a testé. C'est intéressant quand même. Et rappelons que Lucas a travaillé plusieurs années quand même à la tête de la branche VR de Meta Europe. Donc tu vas nous donner ton avis. C'est juste après ceci. Petite pause.